Alors, c'est vendredi que sera présenté à Percé dans le cadre du festival Les Percéides, le documentaire Les Roses. C'est un documentaire de Félix Rose, le fils de Paul Rose. Évidemment, on retrace toute la période de la crise d'octobre, la période de détention, la sortie de prison. Il est avec nous ce matin. Monsieur Rose, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Première question, pourquoi vous avez décidé, puis ça remonte à quand, là, cette idée de faire un documentaire sur votre père?
Mais moi, c'est une quête personnelle qui m'habite depuis que j'ai 6-7 ans, parce que quand j'ai appris qui était mon père, qui avait été impliqué dans la mort d'un homme, quand t'es un enfant, tu penses pas vraiment à l'aspect politique, social, contextuel, tu t'arrêtes juste à comment ça que mon père est impliqué dans la vie d'un homme, puis qui a fait 10 années de prison. Donc, de mon côté, c'est sûr, c'était un choc, parce qu'il y avait une rupture entre le père de famille, qui était un père assez aimant, qui levait jamais le ton, qui était très affectueux, papa poule, et l'image que j'ai appris à connaître des médias du révolutionnaire point en l'air. Donc moi, ma quête à moi, ça a toujours été de comprendre qu'est-ce qui avait mené ma famille, mon père, mon oncle, à amener des gestes aussi graves. Puis ça, cette quête-là, elle s'est faite sur plusieurs années. Puis j'ai développé une passion commune avec mon père sur la généalogie. Puis c'est en prenant un peu l'histoire de la famille Rose, d'où on venait, des gens quartiers, un quartier populaire pauvre. On a travaillé pendant 100 ans dans une usine qui s'appelle la Red Path, où il fallait parler en anglais au patron, où c'était des conditions de misère. C'est en prenant tout ça que j'ai un petit peu mieux compris qu'est-ce qui avait amené la crise d'octobre.
J'ai regardé votre documentaire parce que c'est, bon, sur votre famille, c'est sûr, mais c'est le contexte historique, là. Et vous venez de le mettre en lumière sur les conditions de travail. Les gens qui vivaient dans Saint-Henri, par exemple, ou encore dans l'est de Montréal, ou par la suite sur la rive sud à Jacques-Cartier. Est-ce que votre père s'est ouvert sur ces questions-là? Est-ce que, parce que autant il pouvait être tribun, là, puis être un espèce de leader, est-ce qu'en privé, il a partagé avec vous ses réflexions?
Ça a été très long. Je dirais qu'il y avait comme, on n'en parlait pas. Les jeunes, on en parlait plus à notre mère. On avait de la difficulté, on en parlait à notre père. Puis notre père, lui, c'est sûr qu'il était très dans le présent. Il travaillait à la CSN, donc on en parlait très peu. C'est vraiment en 2011, quand j'ai fait un voyage de généalogie avec mon père en Irlande, parce que nos ancêtres viennent d'Irlande, que mon père a perdu la vue pendant le voyage, puis ça m'a un peu ouvert les yeux de façon ironique. Comme je disais, mon père est en train de disparaître, il est pas immortel, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à en parler directement avec lui. Puis on a commencé à monter le projet, il m'a raconté un peu d'où il venait, le contexte, et moi il m'a expliqué, Félix, moi, à la base, j'étais contre la violence. J'étais un militant pendant 8 ans. Mais chaque fois qu'on prenait la rue, c'était les coups de bâton. Chaque fois qu'on faisait des projets comme une maison des jeunes à Percé, on se faisait arroser. Puis le jour où la ville de Montréal a dit plus loin de manifestation, nous, on s'est dit, on n'a plus de moyens. Les voies démocratiques sont bloquées. On ne peut plus s'exprimer. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Et il s'inspirait évidemment de ce qui se passait en Amérique latine, les Tupamaros Rose ou en Algérie, les guerres, les révolutions nationales. Donc, on avait expliqué tout ça. Il avait pris le temps de me l'expliquer. Puis peu de temps après, il est mort d'un AVC, justement, au moment où on commençait le projet. Donc, moi, ça a été un choc pour moi. Puis à son décès, là, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas que je perde de temps. Puis pendant 8 ans, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai rencontré des témoins clés de la crise d'octobre. J'ai peut-être enregistré une 50aine de témoignages et j'ai trouvé des archives inédites pour essayer de raconter cet événement-là qui a marqué les esprits de façon différente, parce que c'est tout le temps les mêmes images qu'on voit sur la crise d'octobre. Puis moi, je voulais la raconter de façon différente, puis j'assumais la subjectivité. C'est vraiment le point de vue de la famille Rose, comment la famille Rose a vécu cet événement-là, puis l'impact que ça a eu. C'est moi, mon film, c'est qu'est-ce qui a mené à octobre, pourquoi ils ont décidé d'aller aussi loin, poser des gestes aussi graves. Et ça a été quoi les conséquences par la suite, dont toutes les années de prison, les procès. Donc, c'était un peu ça mon objectif avec ce film-là.
Bon, on voit beaucoup dans le film votre oncle, Jacques Rose, qui est un peu, devient un peu le porte-parole de Paul Rose, et bon, raconte le contexte historique, le contexte familial et tout ça. Mais aussi, c'est assez clair qu'on sent les tensions ou les différences entre la cellule felkiste des frères Rose et Jacques Langteau de l'autre côté, là.
Oui, exactement. C'est que il y avait deux points de vue. C'était un groupe. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il avait fait une espèce de, il s'était organisé. Il avait fait une espèce de prison du peuple à Saint-Anne-de-la-Rochelle. Puis ça avait été brûlé dans leur vocabulaire. La police avait découvert le lieu, dont toute l'organisation qui avait monté pendant 8 mois était à l'eau, dont le groupe s'est divisé en deux. Il y en a qui voulaient vraiment passer à l'action, le groupe de Lanto, puis le groupe de mon père. Ils disaient, on n'est pas prêt à aller à faire des événements, on n'est pas prêt à faire des enlèvements, on n'est pas préparé. Donc, eux sont allés au Texas chercher des armes, tandis que le groupe de Lanto ont décidé d'enlever le diplomate britannique James Cross. Puis c'est en prenant justement du Texas qui avait été enlevé, puis que le gouvernement refusait de négocier, puis que la crise d'octobre avait lieu, qu'ils ont pris le décidé, même s'ils étaient contre les enlèvements à ce moment-là, d'enlever Pierre Laporte. Puis on connaît la suite.
Bon, parlons-en de l'enlèvement de Pierre Laporte. On s'en doutait, mais c'est en tout cas assez confirmé dans votre documentaire. Le choix de Pierre Laporte a été fait rapidement. C'est pas quelque chose qui était longuement planifié, là.
Exactement. Eux, ils avaient tout le temps en tête d'enlever un diplomate américain. Mais vu que tous les ponts étaient barrés, puis eux étaient sur la rive sud, puis les ambassades étaient protégées, il connaissait Pierre Laporte, parce que Pierre Laporte, il y avait une plaque sur sa maison, tout le monde savait où il vivait. Puis, il faut pas oublier qu'à l'époque, il était vice-premier ministre, et Robert Bourassa était en voyage à New York, dont il était premier ministre en fonction, et avait décidé d'adopter la ligne dure par rapport à la négociation avec Cross. Il disait, on refuse de témoigner. Donc, il avait décidé, c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé d'enlever M. Laporte.
Parlons-en de Pierre Laporte, parce que, on vient de le dire, la décision se prend. L'enlever, c'est une chose. Le séquestrer, évidemment, c'en est une autre. Et le tuer, c'en est une troisième. Je sais que les membres de la cellule ont assumé collectivement, même si dans le cas de votre père, il était absent, la responsabilité de la mort de Pierre Laporte. Quand vous pensez à la mort de Pierre Laporte, quand vous pensez à sa famille, je connais un des fils Laporte qui a perdu son père, donc, alors qu'il avait environ 10 ans. Quelle explication vous donnez sur ce qui est arrivé?
Mais moi, l'explication que j'en fais, c'est qu'ils ont assumé, parce que quand t'enlèves un homme, t'es responsable de sa vie, et Pierre Laporte est décédé. Ça a été une circonstance d'événement. Pour qu'est-ce que moi, j'en ai compris, c'est qu'ils n'ont jamais voulu le tuer. Ça n'a jamais été dans les scénarios envisagés. Il y a eu la loi des mesures de guerre. Puis la loi des mesures de guerre a créé une tension partout au Québec et sur la rue Armstrong. Il y a eu une succession d'événements. Il y a Pierre Laporte qui a appris qu'est-ce qui se passait au Québec, qui a eu comme une espèce de dépression, crise de panique, qui a essayé de s'échapper. Il s'est blessé gravement en fonçant dans une fenêtre. Et par la suite, tous les éléments qui ont suivi amené à sa mort.
Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un accident, sa mort, là.
Eux, ils ont toujours dit que c'était pas un accident parce qu'ils l'avaient enlevé. Parce que même si c'est un accident, il reste qu'ils l'ont enlevé. Donc, la responsabilité première vient au SLQ. C'est pour ça qu'ils ont toujours revendiqué la mort de Pierre Laporte. Ils ont dit nous l'avons tué, nous l'avons exécuté. Mais c'était pas comme prévu, puis c'est pas un meurtre prémédité. C'est arrivé, puis on dit nous, c'est notre faute, on l'a enlevé, donc c'est nous qui l'a tué. C'est comme ça qu'ils l'ont dit.
Dites-moi, vous êtes Félix Rose, votre père c'est Paul Rose, votre oncle c'est Jacques Rose. Grandir en réalisant l'histoire de son père, de ses parents, l'histoire des membres de la famille. Est-ce que les gens vous pointaient à l'école de façon positive ou négative ou dans la vie en général quand ils faisaient le lien entre vous et votre père?
C'est particulier parce que nous, on vivait dans une bulle. Nos parents nous ont toujours très bien protégés par rapport à tout ça. Et les gens qui étaient hostiles à mon père avaient toujours le respect de ne pas l'exprimer publiquement. Jamais c'était des scènes où mon père se faisait insulter dans la rue. C'était juste les gens qui avaient une sympathie ou une curiosité qui venaient le voir. Moi, j'ai grandi à la CSN. J'étais là dans les combats syndicaux. Puis il était tout le temps appelé du monde. Puis c'est sûr que mon père impressionnait beaucoup par rapport à la vie qu'il avait eue. Mais ça n'a pas été une lourdeur pour moi d'être le fils de Paul Rose. C'est sûr que moi, c'était plus pour comprendre pourquoi mon père avait commis un geste aussi grave qui ne correspond pas à l'homme que j'ai connu. Puis tu sais, le film, c'est un peu ça que j'essaie de montrer. Puis tantôt, vous parliez de la famille Laporte. Moi, j'ai jamais voulu, tu sais, j'ai faire un film. Je voulais montrer clairement que Pierre Laporte était plus que symbole. C'est qu'on enlevait un symbole, on se retrouvait avec un homme. Et il y a des conséquences graves. Puis j'ai jamais voulu banaliser la mort de Pierre Laporte dans le film. J'ai voulu montrer l'importance que ça a eu, puis que c'était pas un geste banal, tu sais. Parce que justement, le but de mon film, c'est pas d'excuser le geste, c'est vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qu'amène un groupe de personnes à prendre la clandestinité. Puis il y a plein de facteurs, la répression et tout ça, mais je voulais le montrer que c'est pas des gestes gratuits.
Le film va être présenté à Montréal et à Québec, c'est à compter du 21 août, exact?
Oui, exact. Puis j'invite les gens à suivre la page Facebook, que toutes les informations sont là. Puis pour terminer, je voulais juste remercier Babelfilm et l'ONF, parce que c'est un film d'archives qui a pris 8 ans, puis ils ont pris leur temps, puis j'aurais jamais été capable de le faire sans eux.
OK. Juste un commentaire, comme je vous ai dit, j'ai regardé le film, et il y a quelque chose qui, à la fois, m'a frappé, c'est le côté, je veux dire, là, c'est un peu amateur de l'organisation. On loue une maison sur la rue Armstrong, près d'une base militaire. La maison d'à côté est visitée. L'identité, votre père était connu comme un activiste, votre oncle était connu, les autres membres des autres cellules étaient... Je veux dire, c'est assez invraisemblable qu'on n'ait pas pu les trouver avant.
Mais moi, mon explication à tout ça, c'est oui, vous avez raison, il était connu et tout, et je comprends pas pourquoi ils ont mis la loi des mesures d'acquérir quand, justement, c'était une petite organisation, était peu de personnes... Donc, ça, c'est la réponse n'appartient pas à moi, parce que la famille appartient au gouvernement. Mais c'est sûr que la réaction du gouvernement elle ne valait pas l'organisation de la Sécu. Ils ont fait à croire que c'était une organisation qui allait faire un coup d'État, mais dans les faits, c'était une petite organisation avec peu de personnes.
Merci, M. Rose. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Félix Rose, donc, qui est le cinéaste, coproducteur de ce film « Les Roses ». Alors, je le disais, présenté au festival Les Perséides de vendredi et puis à Montréal, Québec, au cinéma, le 21 août prochain. On s'arrête pour la pause, puis au retour, mes amis, le sujet. Êtes-vous prêt à envoyer vos enfants à l'école? Puis si vous êtes un prof, êtes-vous prêt à retourner à l'école? Tu sais, on pense que le virtuel, là, c'est... Et je sais que ça varie beaucoup, collégial, universitaire, primaire, secondaire. 514-790-9850, 514-790-9850.